Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec Vincent Larrain de QMI, on parle de deux grands dossiers qui vont faire du bruit dans la capitale en 2022. Le tramway et le troisième lien. Le premier devrait entrer en chantier à l'été. Quant au tunnel de la CAQ, ben la CAQ avait promis une première pelletée de terre avant les élections qui sont prévues pour le 3 octobre. Vincent Larrain nous présente l'opinion d'experts de la question des transports qui viennent de faire paraître un essai intitulé « Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec ». En effet, y survivrons-nous? Qui va survivre ou non? En tout cas, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les rues.
Mais bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Geneviève remplace cette semaine Rémi Nadeau. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Parlons d'abord du projet de vaccin-pôt du gouvernement Legault. Ça soulève vraiment des débats.
Inévitablement, on s'y attendait, effectivement. Légal, pas légal. Il y a même le député libéral fédéral Joël Lightbon, mon député ici à Québec,
oui.
qui s'est épanché sur Twitter à ce sujet-là, en laissant entendre que ça respecterait pas la loi canadienne sur la santé. Bon, pour avoir discuté avec des apparatchiks caquistes,
oui.
J'aime beaucoup ce terme, Antoine.
Oui.
puisque ce ne sera pas une facture à payer à l'entrée à l'hôpital et que ça n'empêche pas les gens finalement d'avoir des soins, on estime dans les rangs caquistes que ça respecte la loi canadienne. Okay? Donc, si par contre c'était une facture à payer ou dès que tu entres à l'hôpital, tu as ça à payer, là, ça serait une forme de dissuasion ou...
De ticket modérateur illégal.
Exactement. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait le prêter flanc à ne pas respecter la loi canadienne, mais en tout cas, en coulisses, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, ce qui est intéressant, bon, j'ai l'impression que le gouvernement a lancé ça, mais pas toutes les fils sont attachés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vérifier quelle forme ça pourrait prendre, hein, tout ça. Est-ce qu'on va avoir une ligne additionnelle dans notre rapport d'impôt ou est-ce que ça pourrait être, comme dans d'autres pays, où ce sont des amendes qui sont données aux gens. OK, c'est des amendes si pour 3 mois, là, on s'en était parlé hier en Italie, en Autriche, en Allemagne, c'est des amendes, 100 euros à payer. OK, donc ils sont en train d'analyser si justement cette contribution santé-là peut s'appliquer directement cette année dans le rapport d'impôt. Parce que si c'est pas le cas, l'effet dissuasif n'est pas là.
Mm-hmm.
C'est un coup d'épée dans l'eau, là. Ils veulent un effet immédiat.
C'est ça.
Donc, s'ils jugent qu'il est trop tard à ce stade-ci pour inclure ça dans le rapport d'impôt de cette année, ils vont prendre une autre formule. OK? Donc, ça c'est intéressant aussi. On verra donc si on va avoir une facture à payer. En tout cas, si les non-vaccinés vont avoir une facture à payer qui va leur être transmise d'une autre façon ou si ça va être bel et bien, donc, par le rapport d'impôt.
Parce qu'il y a des experts qui disent on devrait tout simplement avoir un couvre-feu. Pour avoir un effet immédiat, là, un couvre-feu plus dur pour les non-vaccinés, une application du passeport vaccinal plus étendue. Donc ça, ça aurait un effet plus rapide qu'une espèce de truc fiscal.
Oui, mais ce matin, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'est pas gêné pour préciser que dans les 2 dernières journées, il y a plein de Québécois qui, d'un coup, ont pris leur première dose. Des Québécois qui, visiblement, donc, jusqu'à maintenant, ne se sentaient pas interpellés par le vaccin, ben là, qui, d'un coup, dans les 2 derniers jours, ont pris rendez-vous pour leur première dose.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr qu'il y a un effet, ce genre de mesure-là, ça a un effet sur les gens, là, l'objectif.
Mais même le débat autour de la mesure, moi, j'ai l'impression, a déjà un effet dissuasif ou encourageant la vaccination?
Bien, regarde, on avait vu ça aussi avec le passeport vaccinal qui s'applique à la SAQ et à la SQDC, je veux dire, puis c'est même pas entré en vigueur encore. Ce n'est que le 18 janvier que ça entre en vigueur maintenant. Donc, pendant tout ce temps-là, est-ce que ça a pu convaincre des gens pendant qu'on en a parlé, discuté? Donc, c'est ça aussi l'objectif de ce genre de mesures-là. C'est de convaincre encore plus de monde de se faire vacciner. Faut pas oublier ça.
Par ailleurs, il y a toute la discussion juridique autour de est-ce que ça respecte les chartes, hein? Et moi, en tout cas, lundi, j'ai eu Patrick Taillon, le constitutionnaliste, à l'émission, qui ne parlait pas directement du vaccin-pot, qui se posait la question, pourquoi toujours, comment dire, y aller par la bande? Pourquoi le gouvernement n'utilise pas son pouvoir d'imposer la vaccination obligatoire? Puis ensuite, il fera des exceptions pour des gens qui ont des problèmes de maladie, etc.
Oui, parce que quand, vendredi dernier, quand le ministre fédéral, Jean-Yves Duclos, est sorti pour dire, ben écoutez, finalement, là, vous savez, là, on va finir par imposer la vaccination obligatoire. On n'aura pas le choix, on va finir par ça. Là. Ça va finir par arriver. Ben, je te rappelle que ici, la réaction à Québec a été surprenante de mon point de vue, là, mais assez timide, là, en disant, ben, on n'est pas rendu là. Non, nous, pour le moment, on l'envisage pas à ce moment-ci. Alors que, dans le temps des fêtes, là, quand le cataclysme s'en venait, M. Dubé a précisé en point de presse que s'il fallait aller là, on irait. Mais là, on les sent beaucoup plus tièdes à cette idée-là de vaccination obligatoire. Mais là, on prend comme plein de chemins, finalement, mais on ne se rendra pas, comme M. Duclos le dit, au bout du compte, dans quelques semaines, ben, à la vaccination obligatoire.
Oui, autre question, Geneviève, est-ce qu'on va siéger en personne ici à l'Assemblée nationale le 1er février comme prévu?
Bien, c'est une bonne question parce que effectivement là, il y en a plusieurs en plus, il y a des députés qui se posent la question, nous aussi comme journalistes qui couvrons le Parlement.
Ouais.
Mais les élèves à la fois du primaire et du secondaire mais aussi des cégeps et des universités devraient rentrer en classe à partir de la semaine prochaine, ou en tout cas, c'est reporté un petit peu pour certains, notamment dans les universités, là, ils ont jusqu'au 31 janvier pour revenir en présence. Mais si eux rentrent, et je vous rappelle qu'en ce moment, vous pouvez aller très bien magasiner dans les centres commerciaux, là. Les magasins sont ouverts, là. Donc, comment expliquer après ça, si les commerces sont ouverts, que tu peux aller flâner à Place Laurier, ici à Québec, qu'on n'ouvre pas le Parlement? Il va falloir qu'il se démène à trouver une raison, M. Legault, s'il ne souhaite pas vivre les périodes de questions à répétition encore à partir du 1er février.
Parlons politique, Geneviève!
Yeah!
Est-ce que Québec solidaire présente déjà sa candidate sans savoir s'il va y avoir un déclenchement dans Marie-Victorin?
Quand la CAQ présentera sa candidate, ou en tout cas qu'on entendra le nom de la candidate, parce qu'on sait que ce sera une femme, c'est ce qu'on nous a dit. Mais là, on pourrait être certain qu'il va y avoir une élection partielle bientôt.
Oui.
Mais pour le moment, c'est pas le compte. C'est pas encore. Mais on a appris, donc, qui sera la candidate, oui, de Québec solidaire dans Marie-Victorin, qui a été, je vous rappelle, une circonscription laissée vacante par le départ de Catherine Fournier, qui est devenue mairesse de Longueuil. J'aimerais quand même que tu me guides pour prononcer son nom, Antoine, s'il te plaît.
En fait, on va la laisser nous guider.
Bonjour, donc voici un court tutoriel pour savoir comment bien prononcer mon nom et mon nom de famille. Donc, mon prénom, c'est Chofika, ça fait Chofika. Puis, mon nom de famille, c'est Vaitianathasarma, donc Vaitianathasarma. Donc, Vaitianathasarma. Merci.
Oui, c'est pas évident à prononcer. Donc, Madame Vaitianathasarma a quand même voulu se présenter pour le Parti québécois, puis c'est une ancienne candidate du Bloc de l'élection automnale.
Oui. Juste pour revenir sur son nom, Antoine, je pense que je vais être obligée de prononcer juste son prénom.
Okay.
Donc, c'est Chofika,
bien
ça. Je vous rassure, c'est vraiment pas dans mes habitudes, mais là, dans ce cas-ci, pour ne pas endommager son nom, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, donc...
C'est une vraie Québécoise, mais d'origine sri-lankaise.
Voilà. Chofika, qui visiblement donc a butiné ailleurs avant d'arriver chez Québec solidaire. Ça, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'il y a des positions qui sont, certains diront, irréconciliables entre le PQ, le Bloc et Québec solidaire.
Oui.
On pense, par exemple, à la loi 21, là, ce qui interdit là, les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité.
Oui, et moi, je l'ai jointe ce matin. J'y ai posé la question, là. On peut peut-être écouter un extrait.
Je suis contre la loi 21. Toutefois, je reconnais la légitimité de la discussion qui est malheureusement un débat actuellement sur la loi 21. Je pense qu'il faut qu'on écoute toutes les personnes qui se sentent concernées par ce débat. Toutefois, j'aimerais ajouter qu'en ce moment, le débat ne permet pas d'échanger, de comprendre, d'avoir une position d'empathie envers les personnes qui sont concernées par cette loi-là.
C'est assez contradictoire avec la position du Parti québécois.
On ne peut plus contradictoire, mais hors pandémie, là,
ouais,
cette histoire-là aurait probablement fait l'objet de vives controverses, mais là, bon, on en parle très peu. On revient toujours à l'absence de politique ou presque pendant la pandémie.
Oui.
Mais effectivement, là, peut-être que c'est ce qui a poussé d'ailleurs Québec solidaire à recruter une candidate du Bloc. On parlera peu de ce double discours sur la loi 21.
Je lui ai demandé si c'était un changement de position sur la loi 21. On va écouter ce qu'elle a répondu.
Non, c'est pas un changement de position. Au sein du Bloc québécois, j'avais déjà mentionné que je suis pour la légitimité de la loi 21, qu'on maintient cette discussion-là. On s'entend que le Bloc québécois n'a aucun, techniquement, c'est de compétences provinciales. Et le Bloc québécois soutenait ce que Québec voulait. Donc, c'était pas un changement de position. J'ai toujours été très profondément mal à l'aise par rapport à ce sujet-là.
Oui, c'est une pirouette. Puis, l'autre aspect qui a été souligné par Pascal Bérubé du Parti québécois sur Twitter, c'est que Québec solidaire a quand même travaillé contre elle cet automne dans Rosemont. Parce que Québec solidaire, on sait, travaille avec le NPD.
Oui, mais ça n'avait pas l'air de lui poser de problème, en tout cas, quand tu lui as posé la question. Donc, toute politique s'adoucit en temps de pandémie. C'est ce qu'on doit retenir.
Fécondation in vitro, en terminant, tu avais un papier intriguant ce matin dans le journal.
Intriguant, mais oui, je sais que c'est très intriguant, c'est un peu complexe, effectivement. Je vais aller dans les détails pour que les gens comprennent bien, mais c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens,
oui.
Les couples infertiles, les gens qui veulent des enfants, qui parfois attendent depuis des années. Ça ne fonctionne pas. Et puis, qui attendait de pied ferme et avec tellement d'insistance le nouveau programme public de procréation assistée qui est entré en vigueur le 15 novembre. Mais le 15 novembre, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Les traitements de fécondation in vitro, des patientes, des cliniques OVO notamment et Fertilis à Montréal,
ouais,
ont instantanément cessé les traitements de ces patientes-là parce que il y a un conflit, un litige financier avec Québec. Alors, Québec offre 3 900 $ aux médecins des cliniques privées pour pratiquer une fécondation in vitro.
Ça, c'est un essai? Parce que y a, je pense
oui,
que...
Oui, c'est un essai.
Okay.
Ce que prévoit le programme public, c'est un cycle de fécondation in vitro.
C'est ça.
Donc, le gouvernement offre de rembourser donc 3 900 $ aux médecins qui pratiquent ces fécondations in vitro dans les cliniques privées. Mais les cliniques privées, elles, réclament 7 600. C'est quand même un écart abyssal, on pourrait dire ça. Donc, c'est ce qui cause le problème et c'est ce qui fait que ça fait 2 mois qu'il y a plein de patientes qui ont suspendu leur traitement. Certaines avaient commencé à prendre des hormones, ont dû cesser de prendre des hormones. Certaines autres ont des centaines de dollars de médicaments dans leur frigo en attendant de recommencer les traitements. Donc, ça touche beaucoup de monde.
Mm.
Évidemment, il y a des cliniques publiques aussi qui offrent la fécondation in vitro. On parle du CUSUM de Sainte-Justine, mais évidemment, les listes d'attente sont interminables et Sainte-Justine, notamment, est touchée par le délestage. Il ne faut pas oublier ça. Oui.
Lié à la COVID, là, c'est-à-dire qu'on abandonne des opérations pour laisser de la place à la COVID ou malades de la COVID.
Tout à fait. Donc là, il y a un énorme conflit, un litige financier donc entre le ministre Lionel Carman, qui est responsable du dossier, et les fertologues des cliniques privées. Et là, M. Carman vient d'annoncer qu'il offre un nouveau permis, un nouvel établissement privé pour faire des fécondations in vitro. C'est un peu une façon de couper l'herbe sous le pied de ces cliniques-là là, qui n'acceptent pas le tarif offert par Québec. Mais M. Carman m'a même dit qu'il songe à ouvrir d'autres centres de fertilité dans les milieux hospitaliers, que ce soit au CHU de Québec, au CHU de Sherbrooke.
Ouais.
On verra. Il était M. Carman, qui n'a pas l'habitude d'être mordant, en tout cas. Là, il l'a été pas mal envers les médecins, les cardiologues de ses cliniques privées. Là, rappelons que M. Carman est médecin lui-même, neurologue, anciennement, si je ne me trompe pas, à Sainte-Justine. Et donc, il a été très dur là envers des collègues médecins, finalement. Il m'a dit, je peux pas discuter avec ces gens-là qui instrumentalisent les patients.
Oh.
Montrez-nous pourquoi vous avez besoin de tant d'argent. Donc, il veut que les cliniques privées ouvrent leurs livres à savoir pourquoi ils ont besoin de 7 600 $ de remboursement pour procéder à une fécondation in vitro.
On se souvient de Gaétan Barrette qui avait parlé de l'ancien programme comme un bar ouvert qui coûtait
exactement
le double de ce qui avait été prévu à l'origine.
C'est ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a repris les mêmes tarifs qui étaient offerts à cette époque-là.
Mm-hmm. Hein?
Mais donc, le ministre Carman dit, si nous, lui dit qu'il n'est pas question que le gouvernement ait juste à payer ce que demandent les cliniques privées, et que si c'était le cas, le programme ne pourrait pas perdurer. Hein?
Okay.
On devrait le fermer après même pas 5 ans. Donc, on verra. Là, pour le moment, les cliniques privées n'ont pas voulu réagir. Elles sont pas très loquaces sur la place publique là, depuis le début de ce conflit-là. Mais ça touche énormément de gens.
Mais oui.
Il y a eu beaucoup de témoignages là, de gens qui sont découragés par tout ça. Et certaines, même des gens qui, par exemple, avaient 40 ou 41 ans et qui se laissaient encore quelques mois, qui avaient encore quelques mois pour profiter du programme, là, parce que ça va jusqu'à 41 ans. Après ça, tu n'as droit qu'au crédit d'impôt. Là. Donc, ces gens là sont bien découragés.
Merci beaucoup, Geneviève.
Merci.
Et on se reparle demain. Je rappelle que Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Une fois de temps en temps, à là-haut sur la colline cette année, le collègue Vincent Larrain, correspondant parlementaire de l'agence QMI, ici à l'Assemblée nationale, viendra nous parler d'essais politiques en lien avec l'actualité. Bien, bonjour Vincent Larrain.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler de transport à Québec. Il y a quand même deux projets géants là, qui sont en gestation, le tramway et le troisième lien. La construction du tramway doit commencer cet été et se conclure en 2026. Quant à celui du troisième lien, ben, il y a une promesse de la CAQ de donner un premier coup de pelle. Et tu as lu pour nous, Vincent, « Peut-on survivre aux controverses sur le transport à Québec? » C'est un ouvrage de trois auteurs, Jean Mercier, Jean Dubé et Emiliano Scanu.
Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec? C'est la question que les trois auteurs posent d'entrée de jeu dans leur ouvrage qu'ils ont fait paraître cet automne, avant l'élection donc du nouveau maire à Québec, Bruno Marchand.
Oui.
J'en fais mention maintenant de l'élection du nouveau maire. On en reviendra plus tard parce que maintenant, il faudrait parler un peu de l'ancien, c'est-à-dire Régis Labeaume,
oui,
qui, après un mandat qui a duré sur près de 2 décennies, a grandement rythmé le ton et les positions de la ville sur 2 grands dossiers de transport.
Il est parti sur un coup d'éclat contre le troisième lien, en plus.
Effectivement. Mais on se souviendra que Régis Labeaume n'a pas toujours été en faveur du tramway. Notamment, ça n'a pas toujours été un grand défenseur du transport en commun. C'est d'ailleurs ce que rappelle là, un des trois auteurs, Emiliano Scanu, en ouverture de l'ouvrage, en faisant une espèce d'historique du transport en commun à Québec. Ça remonte à très loin. Donc, dès 2009, on se souviendra Régis Labeaume qui avait créé un groupe de travail sur la mobilité durable qui accouchera plus tard de la première mouture du tramway qui, à l'époque, devait même transiter par l'autoroute Charest,
oui,
se rendre ultimement même à Lévis un projet qui a finalement été abandonné par le maire, Régis Labeaume, en 2012. Puis même pour ce qui est du troisième lien, on se souvient, il s'agit d'un dossier qui date aussi, Emiliano Scanu qui nous rappelle à juste titre que dès 1954, le journal Le Soleil nous parlait de la signature d'un contrat pour un lien sous-fluvial, le tunnel Champlain. Donc,
on pourrait parler d'une vieille obsession.
Oui, effectivement.
C'est sûr que moi, je déteste ce projet-là. Je l'ai écrit plusieurs fois, donc je me permets, Vincent.
On connaît vos positions.
Ça nous ramène quand même à l'élection du nouveau maire, Bruno Marchand. On ne sait pas exactement quelle est sa position sur le troisième lien, à part le fait qu'il ne voulait pas de bretelles d'autoroute au centre-ville dans Saint-Roch.
Ben, effectivement, pour le troisième lien, c'est moins clair. Présentement, Bruno Marchand, essentiellement, demande à voir. Il demande au gouvernement du Québec de lui montrer donc des études qui prouvent que le troisième lien peut avoir là, un impact bénéfique pour la mobilité dans la région. D'ailleurs, on se souviendra, le premier ministre François Legault a promis de fournir ces études-là. Pour ce qui est du tramway, par contre, la position de M. Marchand est plus claire. Là. Il est résolument pour, à condition d'en améliorer certains aspects. La dalle de béton, notamment, sur laquelle devra circuler le tramway.
Les arbres.
L'enfouissement des fils, etc.
Ouais.
Dans une entrevue qu'a accordée récemment après son élection au Journal Le Québec, il s'est même dit en faveur d'une phase 2 du tramway qui prolongerait du moins vers la gare du Palais et peut-être même vers l'aéroport de Québec.
Donc, tu as parlé, toi, à un des auteurs du livre qu'on a mentionné plus tôt, Jean Mercier, moi, que je connais bien, ça a été mon professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Comment Jean Mercier voit ça, là, le rôle du nouveau maire là, dans le dossier du troisième lien?
Bien, selon lui, le maire a certaines cartes qu'il peut jouer, mais au moment opportun, notamment dans le dossier du troisième lien dont on risque d'entendre parler beaucoup dans les prochaines années. On l'écoute.
Donc, il y a des cartes importantes dans son jeu. Pour l'instant, il garde ces cartes-là avec lui. Il ne les gaspille pas, puis c'est ce qu'il faut faire. Il pourra les jouer plus tard dans le match, disons, parce que, comme vous savez, même si la CAQ, le gouvernement de la CAQ a dit que les études ne l'empêcheraient pas de réaliser le projet, entre autres les études environnementales, je pense que le gouvernement provincial de la CAQ va nuancer ses positions dans les prochaines années parce que on en a pour des années à étudier le troisième lien, à la fois sur le plan des aspects que nous regardons, nous, à savoir les aspects politiques, les aspects d'aménagement, les aspects administration publique. Donc ça reste à faire. Et évidemment, les gros morceaux qui viennent de l'ingénierie qui sont pas vraiment probants pour l'instant.
Sur le dossier du tramway maintenant, est-ce que Bruno Marchand arrive avec une feuille vierge finalement? Il n'y a pas vraiment d'historique de chicane ou de conflit ou de différend avec d'autres administrations?
Oui, en effet. Le nouveau maire a un gros avantage pour vendre le projet de tramway, pense Jean Mercier, c'est que le projet n'est pas le sien, carrément. Il pense, Jean Mercier, que dans le cas d'une victoire de Marie-Josée Savard, la dauphine de Régis Labeaume, l'adversaire de Bruno Marchand lors de la dernière élection, la nouvelle équipe aurait eu beaucoup plus de difficultés à vendre ce projet-là, étant donné les contre-coups là, qui risquent d'y avoir pendant la construction. On écoute Jean Mercier encore.
Monsieur Marchand, il peut dire, écoutez, c'est un projet dont j'hérite, il est déjà amorcé. Mon travail à moi, c'est pas de justifier l'existence du projet. Mon travail à moi, c'est de le rendre le plus harmonieux possible, de limiter les irritations durant sa construction. Il voit ça d'un tout autre, il peut se permettre de voir ça d'un tout autre œil. Et je pense que c'est très favorable, ça, au projet du tramway lui-même.
Un autre aspect important, c'est qu'on a carrément réglé la question à savoir si le tramway a l'appui ou non de la population là, avec la dernière élection. Donc, c'est un autre aspect qui aide M. Marchand.
Oui, effectivement, c'était beaucoup ça la question, à savoir est-ce que le projet de tramway a l'appui puisqu'il avait été annoncé après l'élection de 2017 par Régis Labeaume. On se souviendra notamment les radios privées de Québec qui demandaient un référendum sur le projet. Mais selon donc Jean Mercier, la question est définitivement réglée à partir du moment où les partis qui étaient pour le tramway ont récolté près de 75 % d'appui aux dernières élections pour à peine 25 % pour le seul parti ouvertement opposé au tramway, c'est-à-dire Québec 21 et son chef Jean-François Gosselin.
Qui proposait par ailleurs
un
transport structurant lui aussi, ouais, c'est ça, une sorte de métro léger.
Oui, c'est ça. Donc, on écoute encore Jean Mercier sur le référendum maintenant conclu.
Et ce qui va aider à l'atmosphère aussi, c'est que l'appel à un référendum sur le tramway ça va cesser ces appels-là, parce que finalement, il y a que 25 % des gens qui ont voté contre le tramway. Alors donc, le référendum a eu lieu d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont contre le tramway ont tort. Ça veut dire qu'ils peuvent, par contre, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus demander un référendum. Il y a eu lieu le référendum.
Mais les phases de construction de ces projets-là sont toujours difficiles. Moi, je me souviens, là, je suis allé souvent à Lyon, en France, au moment où on construisait le tramway. Et c'était vraiment un concert de plaintes partout dans la ville. Une fois que le transport structurant a été construit, après ça, plus de plaintes, au contraire, un enthousiasme. Mais pendant, ça peut être l'enfer. Et c'est ça, on peut se demander si Bruno Marchand ne vivra pas cet enfer-là.
Oui, puis surtout que donc les prochaines élections municipales devraient être aux environs de 2025. Le réseau de transport structurant n'aura pas fini d'être construit. Puis bon, Bruno Marchand devra effectivement vivre avec un concert de plaintes sur tout et sur rien pendant la construction du tramway. Selon Jean Mercier, même si, selon le profil de l'homme, Bruno Marchand aurait tendance à jouer un rôle rassembleur, il y aurait peut-être aussi avantage à ne pas trop se mettre à l'avant-scène, puis à laisser la place, un peu comme l'a fait Régis Labeaume avec Daniel Genet, directeur du bureau de projet, le rôle d'expliquer les aspects techniques, puis un peu de prendre la chaleur, parce que des mécontents, il va y en avoir.
On peut dire qu'il y en a déjà. Il y a des T-shirts sur des arbres là, partout sur René Lévesque.
Ouais.
Donc, des gens qui ne veulent pas qu'on coupe des arbres. Je les comprends. Là. Étant moi-même du quartier, je trouve ça me fait mal au cœur, l'idée qu'on va couper des arbres qui sont presque centenaires.
Oui. Et est-ce que c'est vraiment le rôle de Bruno Marchand de répondre à toutes ces critiques, ces plaintes-là? Comme les auteurs du livre le soulignent, l'administration municipale a tout avantage à s'entourer de technocrates pour expliquer les aspects plus techniques de ça. Donc, on réécoute Jean Mercier là-dessus.
Même si c'est tentant, étant donné sa personnalité, M. Marchand, de négociateur, de rassembleur, il va peut-être être tenté de jouer ce rôle-là, mais il faut que l'administration municipale se rende compte que ça va être à répétition, ça va être lassant, les plaintes, les complaintes, les irritations des commerçants, des résidents, des automobilistes aussi. Et là, je pense pas que M. Marchand veut épuiser son capital social à répondre à tout ça. Au fur et à mesure, il va plutôt nommer des gens. Oui, possiblement technocratique, parce que les réponses vont être en partie techniques pour répondre au quotidien à ces irritations-là. Ça veut pas dire qu'à l'occasion, il fera pas un point de presse ou même une conférence de presse sur l'ensemble de ces questions-là, mais pas s'immiscer dans le quotidien, puis pas essayer de défendre le projet dans tous ces aspects, parce qu'il va en avoir des désagréments. Ça, c'est sûr. Il y en a eu partout, puis il va en avoir à Québec comme ailleurs.
Alors, revenons au livre maintenant. Est-ce qu'on peut survivre aux controverses en transport à Québec? Puis, ça a été instructif pour toi, ce livre-là?
Bien, particulièrement pour quelqu'un qui ne vient pas de Québec comme moi, d'apprendre donc l'historique un peu de tous ces débats-là, ce fut très instructif. Ça donne aussi un éclairage intéressant pour la suite des choses, notamment comment une nouvelle administration va pouvoir faire pour se dépêtrer là-dedans.
Mm-hmm.
Maintenant, il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens.
Eh oui.
Comme le mentionnent les auteurs, la pandémie a remis en question toute l'organisation du travail. Est-ce que c'est encore utile de faire un tramway aujourd'hui à Québec dans un contexte où tant de gens sont en télétravail chez eux? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de transporter les gens? Même chose un peu pour le troisième lien. Est-ce que c'est une bonne période pour le faire?
Ben oui, le troisième lien, selon toi, Vincent, quelle forme peut prendre la fameuse première pelletée de terre que la CAQ a annoncée, a déjà promise avant les élections de 2022?
Bien, comme le dit en chambre le ministre des Transports, François Bonnardel, ce pourrait être de simples travaux préparatoires. Là. Est-ce qu'on ne va pas chercher à sonder la composition du sol dans la région du troisième lien? À suivre, mais c'est vrai effectivement que la CAQ avait promis qu'il y aurait de l'action dans ce dossier-là, dans un premier mandat.
Donc, il reste pas mal de questions pour les deux projets.
Oui, effectivement, je pense que les prochaines années vont répondre à ces questions-là.
Absolument. Et je sais que tu seras à l'écoute de ces questions-là et de ces réponses, puis tu vas les rapporter. Merci beaucoup, Vincent Larrain, qui est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour l'agence QMI. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.